France Culture.
Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
La musique est l'ennemi du silence. C'est ainsi que l'on conçoit souvent leur rapport. D'un côté, du bruit organisé de façon artistique pour faire danser, rire, pleurer, et de l'autre un néant sonore qui permet le repos, la paix et la contemplation. Mais cette opposition est bien évidemment extrêmement simplificatrice. Le silence joue un rôle clé dans la musique. Moment de respiration, de suspension du rythme et du son, il est omniprésent dans de nombreuses cultures musicales. Le taksim dans la musique arabe et turque, l'art du shakuhachi, flûte souvent utilisée en rapport avec la méditation zen, notamment au Japon, voire même certains chants grégoriens, prennent acte d'une totale continuité entre la musique et le silence. Le silence est une nécessité organique pour la musique, et sa présence est souvent chargée de sens, symbolique ou spirituel. C'est donc à démonter cette fausse dichotomie que s'emploie ce numéro d'Euphonia de Daniel Co et Daniela Langère, avec la journaliste Reiko Kideshi, l'ethnomusicologue François Picard, le flûtiste Kutsi Erguner et le compositeur Gérard Griset. Une émission réalisée par Monique Talbot et diffusée pour la première fois le 17 avril 1991 sur France Culture.
Euphonia.
Programme musical de France Culture. Cette semaine, Le Silence par Daniel Co et Daniela Langère.
Le silence.
Aujourd'hui, le son silence.
En compagnie du flûtiste turc Kutsi Erguner, de la journaliste japonaise Reiko Kideshi, de l'ethnomusicologue François Picard et du compositeur Gérard Griset.
Le son silence, le son qui n'est pas opposé au silence, mais qui est tout au contraire intimement lié à lui. Et il est bien certain qu'en premier lieu, nous allons nous tourner vers les musiques orientales, car là-bas, on se rendra compte que c'est une toute autre conduite qui sert aux musiciens pour leur rapport avec le silence. Par exemple, hier, on a bien compris dans les structures de la musique occidentale que le silence était en opposition avec le son, c'était une sorte de matériau musical. Mais aujourd'hui, quand nous écouterons la flûte shakuhachi, ou tout de suite, quand nous écouterons le naï turc des soufis, on se rendra compte que c'est le silence qui est chanté. Et même lorsque le son est joué fort, c'est toujours le silence qui est chanté. Kutsi Erguner, qui habite Constantinople avec son frère, est le descendant d'une grande famille soufie de flûtistes. Et on va se rendre compte, dans l'enregistrement que nous allons écouter, que son frère tient le bourdon, et en fait ce bourdon, c'est véritablement le silence.
Le joueur de Ney, Kutsi Erguner, avec son frère Suleyman.
Kutsiyergunner.
Dans notre tradition musicale, la musique est là pour mettre en valeur un moment de silence. C'est-à-dire, c'est pas de couvrir un espace vide, mais de créer des volumes, des espaces, bien entourés, bien brodés par des sons. Et donc, là, il y a tout à fait une autre idée de musique. Et donc, plus que l'art de Ney, il y a un concept de musique qui est appliqué sur cet instrument qui est un flûte en roseau et qui correspond plus à un lien entre la musique et le silence. Dans cette tradition musicale, il y a cette expression improvisée, ce qu'on appelle le taksim, qui est, disons, le pilier de cette expression musicale. Et l'idée de taksim, c'est un peu comme une conversation. Dans une conversation, il y a donc des phrases, de moments de suspense qu'on mettrait une virgule si on écrivait. Et donc, tous ces moments sont marqués par des espaces vides, par le silence, et qui, disons, soulignent le sens de ce que le musicien veut exprimer. Donc, de ce fait, les moments de silence sont aussi à la fois pour aider au musicien à confirmer sa phrase, pour donner un sens à sa phrase. Mais, disons, dans un sens plus profond, comme Rumi le disait, Jalaluddin Rumi, qui est un maître soufi du XIIIe siècle. Donc, si il faut écouter, de la part de celui qui l'écoute, il faut absolument un silence. Donc le mot, comme la musique, commence à partir d'une écoute. Et cette écoute oblige un silence total chez la personne qui crée la musique ou qui parle. Et donc de ce fait, disons, la musique ou les paroles doit être comme une inspiration qui est reçue, accueillie, en conséquence d'un moment de silence, un moment de réception, un moment de méditation, presque. Donc, dans l'art de Ney, tout est à partir du silence et avec le silence.
Le silence et la respiration.
la respiration est un moment où on crée un lien. On crée un lien, surtout dans la tradition soufie, car toute respiration et expiration doit être accompagnée par une invocation. Surtout dans le contexte d'un moment de méditation, d'un moment de prière. Et donc, de ce fait, c'est-à-dire la manière d'apprécier le silence est nécessairement provoquée par cette invocation qui est une prière, en fait, et qui est liée à cette respiration et expiration.
On a pu parler, à propos de l'art subtil du luthiste irakien Mounir Bachir, de dialogue psychanalytique avec le silence. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a dans cet art une sorte de flux sous-jacent qui relie silence et son. Il est vrai que c'est surprenant d'assister à un concert de Mounir Bachir. On le voit penché sur son luth. Le silence, les secondes s'accumulent, et puis un son apparaît qui est un peu comme une caresse, ou alors d'un seul coup un son plus fort. Mais ce qui est incroyable, c'est comment tout cela est lié. Il faut dire qu'il a de qui tenir, parce qu'il ne faut pas oublier que Mounir Bachir est irakien, et qu'il y a un autre irakien qui était venu il y a bien longtemps, c'est-à-dire du temps où les Arabes étaient à Cordoue, et ce Ziryab, il s'appelait Ziryab, le merle noir, était venu à Cordoue, avait brillé, ébloui tout le monde par son art du luth, auquel il avait ajouté une corde supplémentaire. Ce qu'a fait d'ailleurs aujourd'hui Mounir Bachir, il a ajouté encore une corde dans l'extrême grave. Il faut absolument avoir écouté ces improvisations Taksim de Mounir Bachir.
La journaliste et musicologue japonaise Reiko Kidashi, actuellement fixée en Europe, a été très surprise par les différences dans la façon d'aborder le silence en Occident et dans son pays.
Oui, je pense que c'est tout à fait différente parce que, au moins au Japon, le silence est une partie de la musique. Il n'y a pas de rupture entre le son et le silence. Peut-être c'est basé sur une notion de bouddhisme.
Il y a chez vous des cérémonies qui se passent dans un certain silence. Je pense à la cérémonie du thé.
Oui, tout à fait. C'est la cérémonie du thé qui a beaucoup de respect pour le silence. Et la cérémonie du thé est établie au XVe siècle. Et la cérémonie du thé se lie directement avec le taoïsme.
Il n'y a pas de musique dans la cérémonie du thé.
Non, il n'y a pas de musique. Ça n'existe pas la musique pour la cérémonie du thé. Mais quand même, les gens considèrent le son, le bruit qu'on fait pendant la cérémonie du thé et aussi considéré comme la musique. C'est-à-dire que le son du vent.
Le son de la bouilloire.
Aussi, oui. Quand on va chauffer de l'eau pour utiliser la cérémonie du thé, il y a le bruit. Qui est aussi une partie de musique pour les gens qui participent.
La cérémonie du thé, ça a à voir avec le zen.
Oui, tout à fait. C'est un produit direct de zen. Et vous savez que le mot zen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que réfléchir, penser silencieusement. Et aussi, ce qui est plus important chez la cérémonie du thé, c'est de ne pas négliger à côté imparfait, parce que la vie n'est pas raisonnable. Et puis, il faut toujours apprécier le fragment de la vie quotidienne.
La flûte shakuhachi est un instrument dérivé d'un autre instrument, celui-là chinois. C'est une flûte droite en bambou et le tuyau est pris dans la base d'une tige de bambou. C'est un instrument pesant, bien solide. Autrefois, il servait même d'arme de défense, dit-on. C'est l'instrument type du moine solitaire zen, par exemple un moine de la secte Fuké. Au XVIIe siècle.
Thank you.
François Picard, qui est ethnomusicologue, a longtemps séjourné en Chine et en Corée. Tout ce qui concerne l'Orient le passionne, et en particulier le zen et la flûte shakuhachi.
Ce qui m'intéresse dans l'art du shakuhachi, c'est pourquoi, quand, comment ce rapport entre musique et silence est apparu dans l'art du shakuhachi, à travers le shakuhachi, et dans son rapport avec ce que l'on sait, ce que l'on dit toujours et ce que les musiciens tiennent à faire savoir, le rapport entre l'art du shakuhachi, qui n'est pas seulement de la musique, avec la méditation, avec le zen. Un petit point historique, le shakuhachi vient de Chine, le zen vient de Chine, et pourtant la relation entre cette flûte et l'art de la méditation est typiquement japonais. Le shakuhachi, le choba, ou xiao, dong xiao, en Chine, cette flûte, en Chine, sert à accompagner essentiellement le chant. Au Japon, c'est devenu un instrument de méditation. Et les Japonais utilisent le terme instrument. Instrument comme une incantation peut être un instrument de méditation. Et pour un Japonais, pour un musicien, nous on appelle ça un musicien, mais pour un joueur de shakuhachi, c'est un instrument qui permet de se dépasser et de rentrer dans quelque chose qui est, bon, le bouddhisme, le nirvana. Et le nirvana, ça a à voir avec le silence.
Il existe en Chine un instrument qui s'appelle le tsin. C'est une sitar, mais c'est peut-être beaucoup plus qu'une sitar. En effet, on a retrouvé un livre, ou plutôt on l'a retrouvé, on l'a conservé, on l'a même traduit en différentes langues, un livre qui s'intitule « Les 24 saveurs du tsin ». Il a été écrit par Su Shangyin, que l'on dit né en 1582, est mort en 1657 dans notre ère.
Quelle difficulté y a-t-il à choisir un endroit silencieux où jouer du tsin? Ce qui est difficile, c'est de trouver le silence dans son jeu. Mais comment trouver le silence dans son jeu alors que les doigts se meuvent pour produire des sons? Je dirais que c'est précisément dans les sons qu'il faut rechercher le silence. Des sons brusques trahissent un doigté impatient. Des sons grossiers, un doigté impur. Seul le son ténu révèle un doigté silencieux. C'est ainsi qu'on juge la musique. Le silence vient du fort intérieur et les sons naissent du cœur. Si le cœur est troublé, si les mains sont agitées, comment obtenir le silence? Seuls ceux qui sont maîtres d'eux-mêmes, détachés et paisibles, ont le cœur limpide et les doigts dispos. Ils comprennent d'eux-mêmes ce qu'est un son ténu.
L'art du tsin, donc c'est l'art des lettrés. Les lettrés, ce sont quand même en Chine, il faut dire le mot, ce sont les bureaucrates. C'est ceux qui ont passé les examens. L'examen est une invention chinoise. Ils ont appris les classiques par cœur. Ils savent composer des poèmes à la manière d'eux. Ils sont chargés d'administrer les régions plus ou moins lointaines de l'Empire au profit de ce centralisme impérial. Et à l'intérieur de ça, ils ont une plage qui est leur intimité et qui est cette sitar à sept cordes, un instrument extrêmement simple et qui permet énormément de choses du point de vue du son et de ce travail du son. C'est aussi une esthétique qui s'est exprimée dans des poèmes, dans de la peinture, et qui s'est exprimée aussi dans deux merveilles, c'est-à-dire deux textes d'esthétique qui ont été admirablement traduits récemment, tout récemment, par Georges Gormartir. Et parmi ces merveilles, les 24 saveurs du Qin de Xu Changyin.
Un document rarissime, enregistré vers 1960 pour une compagnie de disques chinoise aujourd'hui disparue, par un joueur de tsin émérite. L'incantation de Puan par Pu Xuzai.
L'atténuité, c'est le silence parfait qui permet de pénétrer le domaine du mystère, de quitter le monde sensible pour entrer dans l'invisible et rejoindre en esprit le divin empereur Fuxi. La pratique du Tsin se résume ainsi. Régulariser son souffle, exercer son doigté. Qu'on régularise son souffle et l'esprit, de lui-même, deviendra silencieux. Qu'on exerce son doigté et les sons d'eux-mêmes retourneront au silence.
À l'époque où écrivait sur l'art du Tsin le poète chinois Xu Changyin, commençait à fleurir en Europe une toute autre forme musicale, la musique baroque. Une musique à propos de laquelle on a pu dire hier qu'elle était fort éloignée du silence. Mais François Picard, tout à l'heure, va nous démontrer que ce n'est pas vrai.
dans la technique du jeu baroque, dans les techniques d'interprétation, ça y est marqué dans tous les traités, il y a une chose qui intervient, qui est le silence d'articulation. Pour ça, il suffit d'entendre une interprétation dite à l'ancienne. Le silence est important pour faire ressortir la note. Malheureusement, pour ceux qui s'en tiennent au texte écrit, ce silence n'apparaît pas dans la partition. Donc on peut dire peut-être que le silence n'est pas essentiel dans la musique baroque, puisqu'on n'a pas jugé utile de le faire apparaître dans la partition. D'autre part, le silence, ce grand silence dramatique qu'on verra, qu'on ne peut entendre chez Beethoven, chez les grands romantiques, ce silence n'apparaît pas dans la musique baroque, certainement pas. Il y a toutefois des musiques où il apparaît pour des raisons extérieures, pour des raisons de sens. On sait, on commence à savoir, mais on n'a pas encore tout compris, que dans le baroque, la rhétorique, le sens est extrêmement important. Quand il y a le silence de Dieu qui se fait lors d'une leçon des ténèbres, on se tait. Dans le baroque, il y a une constellation autour du silence qui est le silence comme vision nocturne, le silence du sommeil, le silence de la nuit. Et pour ça, rien ne l'exprime mieux qu'un poème de cour de Michel Lambert, Le repos, l'ombre, le silence.
Michel Lambert, Le repos, l'ombre, le silence.
François Picard a par ailleurs trouvé le silence, et d'une manière presque webernienne, dans la musique de Joseph Haydn.
Apparemment, les sonates pour piano de Haydn, c'est la suite de Couperin, c'est la suite de cet art de toucher le clavier, à toute vitesse, avec beaucoup de notes, et tout est écrit. Et pourtant, quand on entend, au milieu d'autres pièces, quelques opus assez particuliers, tout d'un coup on est frappé par le silence. Le silence dans une musique de Haydn. Le silence qu'on n'attend pas. Est-ce que c'est de la rhétorique? Est-ce que c'est du suspens? Est-ce que c'est de l'ornement? Non, c'est un silence terrible. C'est le silence du coup de ciseau moderne sur la bande, c'est-à-dire que la musique va à toute vitesse. Et on a des triples croches, des bardées de triples croches incroyables, et après, silence. Et c'est permis par ce nouvel instrument qui apparaît à l'époque classique, qui est le pianoforte. On peut jouer fort, on peut jouer faible. Et là, on n'a jamais une musique au bord du silence. Pour avoir une musique avec quelques sons perdus dans un silence, une façon d'arriver vers le silence, comme on avait dans le baroque, comme on aura dans Debussy, sans évoquer Webern, bien sûr. Là, on a une musique qui démarre à toute allure, qui s'arrête, qui repart. Et on a peut-être aussi, tout simplement, l'art, la maîtrise d'un phénomène de perception acoustique, qui est que le son le plus fort est celui qui intervient après un silence, tout simplement.
Joseph Haydn, sonate en Do majeur, opus 48, premier mouvement.
Extrait du premier mouvement de la sonate en Do majeur de Joseph Haydn.
Aujourd'hui, dans cette seconde moitié du XXe siècle, un certain nombre de compositeurs incorporent à leur manière le silence dans leur musique. Ainsi, Gérard Griset dans Thaléa de 1986 pour violon, violoncelle, flûte, clarinette et piano. Gérard Griset considère que l'univers, celui de notre planète, est bruyant, mais les étoiles silencieuses. Et encore, on écoutera tout à l'heure des étoiles musicales. Toujours est-il que pour lui, la musique doit établir des liens privilégiés avec le silence.
Je pense quelquefois que le silence, pour le compositeur, c'est du son à l'état virtuel. C'est-à-dire que, à mon avis, il faut éviter que la musique soit un cache-silence, devienne un cache-silence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez, mais au sens où on parle d'un cache-sexe, c'est-à-dire que, ou bien on cache tout ou on montre tout. Or, ce qui est érotique, c'est justement la transparence, c'est de deviner. Et pour moi, la musique doit laisser transparaître, deviner l'existence du silence, sans le masquer totalement, mais sans le dévoiler totalement non plus. Et je voudrais en venir aussi au silence comme limite à la perception humaine. Je vais essayer de m'expliquer sans faire de gestes, puisque nous, à la radio c'est difficile. Je ne peux pas non plus faire un petit dessin, ce qui simplifierait beaucoup les choses. Mais c'est évident que notre oreille a des limites de perception entre les graves et les aigus. Lorsqu'on entend un discours musical qui se déroule à une certaine vitesse, disons la vitesse du langage, Bien, on entend des notes. On entend un La, un Mi bémol, nous entendons des notes. Et avec une couleur, on dit que c'est un La de piano, ou c'est un Mi bémol de hautbois. Maintenant, supposons qu'on a la possibilité de grossir ce son avec une sorte de microscope. Ou à l'inverse, de nous rapetisser. On prend une pilule et d'un seul coup, on se retrouve très petit face, ou du moins prêt à écouter ce même son. À ce moment-là, ce qui était une note devient un spectre, étendu sur toute la zone audible de l'oreille. Il y a des extrêmes graves, il y a des extrêmes aigus, il y a un champ de profondeur, le temps aussi est dilaté, donc une sorte d'effet de dilatation. Et à ce moment-là, je ne perçois plus, il y a déjà une certaine limite de ma perception, puisque je ne vais plus entendre de mélodie, certainement pas. Je ne vais même plus pouvoir dire c'est une note, mais je vais entendre une sorte de son gigantesque qui va remplir toutes mes facultés perceptives. Continuons notre voyage, supposons que nous avons encore et à nouveau une petite pilule pour nous rapetisser, cette fois tout à fait microscopique, ou bien, si vous voulez, un microscope qui nous permet d'agrandir à nouveau le son plusieurs minutes. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons nous trouver entre deux composantes du son, c'est-à-dire la distance entre un partiel et un autre, c'est-à-dire entre un son harmonique ou un autre, sera telle que tout l'ambitus de notre oreille ne suffira pas à en percevoir plus de deux, en admettant que nous en arrivions, nous aurions donc quelque chose qui serait comme un extrême grave, un extrême aigu, ou à la limite simplement une vague chose bruitée qui serait la composante de quelque chose de beaucoup plus vaste mais qu'on ne peut pas percevoir. Et si on va un peu plus loin, bien on a le silence, c'est-à-dire qu'on est devenu trop petit ou bien le son est devenu trop vaste pour être perçu par nos oreilles.
John Cage nous a donné une idée de ce que pouvait être le silence des étoiles transformé en son avec les études australes, par exemple. La partition est établie d'après la carte du ciel. Charles Saef, de son côté, avait imaginé le silence de l'univers dans sa « Question sans réponse », une œuvre musicale dans laquelle le silence est exprimé par les cordes qui jouent en coulisses. Gérard Griset, de son côté, a imaginé la musique du silence des étoiles à sa manière. Il s'agit en fait d'un spectacle visuel et sonore pour percussion et pulsar obligé qui porte le titre de « Le noir des étoiles ». Il a été créé aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles le 7 mars 1991 avec les percussions de Strasbourg.
Je disais tout à l'heure que l'univers était bruyant, mais en fait, les étoiles sont silencieuses. C'est-à-dire que chacun sait, le son se transmet dans l'atmosphère, donc l'univers transmet des ondes électromagnétiques de la lumière, mais pas de son directement. Mais il se trouve qu'il y a des étoiles qu'on nomme des pulsars ou des étoiles à neutrons qui envoient des ondes électromagnétiques à une vitesse périodique, mais il se trouve que cette périodicité entre dans nos facultés auditives. Donc, il nous suffit d'une correction, d'une transposition. Alors, on peut en faire une transposition graphique, mais on peut aussi en faire une transposition sur bande magnétique. Et à ce moment-là, on entend cette étoile. C'est évidemment un moment très émouvant. J'ai rencontré un ami astronome lorsque j'enseignais à Berkeley, qui s'appelle Joseph Silk, qui est un cosmologiste. Et la première chose qu'il m'a dit, je vais te faire entendre un son de pulsar. Et toute mon idée du noir de l'étoile est née, je crois, ce jour-là. Je me suis immédiatement demandé, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? C'est trop fascinant. Et le choix, je ne vais pas me lancer sur les détails concernant la partition. Mais le choix qui a été fait, c'était de ne pas manipuler ce son d'étoile, d'avoir une sorte de respect pour ce qu'il est, mais de le laisser apparaître, un peu comme si on ouvrait une fenêtre pour regarder le ciel étoilé, au milieu d'une pièce qui quand même en est en quelque sorte l'écrin, enfin la scène. Je les présente tout de même, je ne laisse pas entrer n'importe comment. Et alors ce sont des sons périodiques qui quelquefois peuvent donner d'ailleurs des notes. Quelquefois, si ces périodicités se trouvent dans une zone très basse, donnent des battements ou des pulsations. Dans les deux pulsars, enfin dans l'exemple que je vous laisse du noir de l'étoile, on entend un pulsar qui est celui de Vela et qui tourne sur lui-même 11 fois par seconde. Donc on entend un battement de 11 coups par seconde. Ça ressemble un petit peu à une percussion africaine, pour d'autres un vieux moteur de bateau au fond du port, pour d'autres un hélicoptère. Enfin, on peut toujours projeter ses propres fantasmes sur l'étoile. Mais il y a d'autres sons que je me propose un jour d'utiliser. Il y a par exemple le soleil nous envoie des bouffées aussi de fréquences qui ressemblent plus alors à des explosions extrêmement apériodiques. Et c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup frappé les astronomes quand en 67 ils ont découvert le pulsar. C'était la périodicité. Tout ce que nous envoyait l'univers, c'était quand même des signaux relativement extrêmement bruités, très complexes, et brutalement on avait ces bip-bip parfaitement périodiques. Alors on a immédiatement pensé aux extraterrestres, mais c'était pas ça, c'était quelque chose de peut-être encore plus fantastique d'ailleurs.
Le son, silence.
En compagnie de Kutsi Yarguner, Reiko Kidashi, François Picard et Gérard Griset.
Le silence.
Euphonia, Francis Malval, Monique Talbot, Daniela Langer, Daniel Coe.
C'était Le son silence, un numéro d'Euphonia diffusé pour la première fois le 17 avril 1991 sur France Culture.